Alors, je me suis assis puis j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux enlever dans cette histoire-là? Clairement, il va falloir que j'y enlève un bras parce qu'il est rendu qu'elle prend 1h30. Je sais jamais trop à quoi le monde s'attend quand ils s'en vont voir un spectacle de conte, ni à quoi ils s'attendent quand ils téléchargent un balado supposé parler de conte. Mais ce que je sais, c'est que je m'appelle Patrick Dubois, je suis conteur et je m'en vais vous parler en long et en large de ce qu'a été pour moi la grande aventure d'être conteur d'histoire. Et vous écoutez « Il était une fois dans l'Est ». Enregistre. Voilà. Si ça se trouve, Marianne, on va enregistrer ton rire puis on va l'ajouter au montage. Toutes les fois où tu n'auras pas osé rire. Il était une fois dans l'Est, épisode 7. Dans l'épisode précédent, je vous parlais d'un de mes premiers contes et puis dans celui-ci, ce sera de mon autre de mes premiers contes. En fait, la première année, en 2012, j'avais... en passant, merci d'être là. Voilà. Merci d'être là, Marianne. Merci d'être là, vous. Je ne sais pas si vous les avez écoutées toutes depuis le début ou si vous rentrez par là. Je ne sais pas si c'est du contenu pertinent si tu rentres par là. Essayez-les. Là. Je ne sais pas où vous êtes. J'ai très peu d'idées de ce que je suis en train de faire, règle générale. Alors, comme cette longue phrase-là. Donc, un de mes premiers contes, c'était, je vais appeler ça l'histoire du feu du Mont-Saint-Joseph. Et je la tiens de la première année. Et c'est une petite histoire derrière ce conte-là. En fait, c'est en gros, c'est une histoire qui parle de la mort. C'est ce que ça fait, cette histoire-là. Puis ça parle de à quel point c'est important que la mort fasse partie du beau cadeau de la vie et tout ça. Et moi, je raconte ça depuis la première année, plein de convictions, en me disant « Ah, mais c'est beau! » Et puis donner de l'espace à ça, jusqu'à ce qu'il y ait un beau soir, je sais pas c'est en quelle année, mais c'était peut-être, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans que je racontais. Et puis, il y a un soir sur la plage, après une soirée de conte, les gens sont là... Et je viens de terminer mon compte et les gens viennent me payer. On me paye en main propre et puis ils viennent me serrer la main et puis me dire merci et puis à la prochaine. Fait que ceux qui savent pas trop quoi dire disent merci, c'était bon. Ce qui est comme la formule de politesse pour dire bye, qui veut pas nécessairement dire que c'était bon. Et tout le monde passe, puis je sais pas, il y a une centaine de personnes, tout le monde passe, on paye, bye, 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 bye. Et puis il y a une fille qui a peut-être mon âge, là, comme dans je sais pas, 25-30 ans, qui passe et elle me donne une lettre. Elle me donne une lettre puis un 5$. C'est le prix du spectacle. Et elle me dit merci et elle s'en va. Je suis comme, bon, OK, elle veut pas en parler. Puis la vlog est partie et coudonc, tu sais. Fait que j'ai cette espèce de petite lettre-là. Je mets ça dans ma poche et je continue de faire payer du monde. Merci, bye, c'était bon, hein, merci. Et puis, une fois que tout le monde est parti, je me dis, mais c'est quoi cette lettre-là, tu sais? Ah, je me rends compte que c'était pas ce compte-là que j'avais fait ce soir-là. Ouais, mais je vous le dis maintenant, on recommence pas cet épisode-là. Fuck off. Fuck off. Alors, j'avais fait un compte n'importe lequel, mais c'est de celui-là que ça va parler de toute ma... Vous êtes en bonne main. Vous allez voir, vous êtes... On sait pas naviguer, mais on sait nager. Ça va bien aller. On rentre à nage. Alors, je viens de finir mon spectacle. Elle me donne sa petite lettre. Tout le monde est parti. Je reste sur le bord de mon petit feu. Et puis, je me dis, maudit, viens-tu de me faire une nouvelle blonde? Quoi, coche oui ou non? Puis, je sais pas, demain, on se tient à main à récréation. Tu sais, es-tu d'accord? Et j'ouvre ça sur le bord du feu. Je suis tout tranquille. Et je me mets à lire. C'est une page 8,5-11 qui est interligne simple. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Connais-tu cette fille-là? Tu sais, ça spinne dans ma tête. Et dans le récit, elle m'explique que l'an dernier, elle et son conjoint avaient fait le tour de la Gaspésie, avaient vécu une soirée ici, ils avaient même passé 2 soirées à venir entendre mes contes, ça lui avait plu, et puis tout ça, bon. Sauf que dans l'hiver dernier, elle avait perdu son conjoint, il était décédé. En jeune âge, quoi. C'était un accident, il était décédé, jeune trentaine. Et qu'elle avait décidé, à travers son deuil, de se refaire un voyage en Gaspésie avec lui pour y dire adieu, quoi. Et qu'elle était venue voir ce spectacle-là pour repasser un peu de temps avec lui et qu'elle serait là pour la semaine. Alors là, moi, je lis ça et tout d'un coup, je réalise la charge de ce qui vient de se passer et je réalise que Mais comment elle a écouté cette histoire-là? C'était pas l'histoire qui parle de la mort. Mais comment elle a vécu sa soirée de conte, elle? T'sais, probablement qu'elle n'écoutait rien. Maudit, elle n'écoutait pas. Mais probablement qu'elle était juste plongée dans plein d'espèces de souvenirs. Y avait-tu une place vide à côté d'elle? Est-ce qu'elle regardait des couples autour d'elle qui écoutaient la même soirée qu'une petite bière à la main? L'air de se dire qu'il pourra jamais rien arriver, quoi. Et ça te fait faire une espèce de tour d'horizon, en fait, qui t'élargit les horizons. Et puis, le lendemain, ben, moi, je me réaligne pour compter. Alors, j'arrive 15-20 minutes avant le spectacle, en même temps que tout le monde. Je mets mon petit bois de chauffage au milieu de la place. Je distribue des guimauves. Je suis là avec mon petit soute de compteur. Me pète les bretelles. Je mets du feu dans mon fanal. Et puis, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je fais mon petit clown, tu sais, qui accueille les gens. Et puis, je la vois, elle. Et je me dis, ouf, et là, et tout d'un coup, tout est pas mal plus lourd pour moi, puis tout d'un coup, je me trouve pas mal moins petit que clown. Et je me dis, tu sais, que c'est solennel pour elle, et ça vient moduler nécessairement ma manière de porter ma soirée. Et vient le moment de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on raconte? Et à ce moment-là, j'avais pas encore un sac dans lequel je pigeais une histoire. Je pense que j'avais comme 4 ou 5 histoires, peut-être. Et. Alors, ma manière de fonctionner était assez simple. Je disais aux gens, bon, qu'est-ce qui était là cette semaine? Qui a entendu l'histoire numéro 1? Bon, tout le monde. OK. Qui a entendu l'histoire numéro 2? Personne. OK. Numéro 3, tout le monde. 4, toi. Bon, ben, ça va être l'histoire numéro 2. Sauf que moi, je réalise que l'histoire numéro 2, en fait, ce soir, ben, c'est l'histoire qui parle de la mort, qui nous dit que ça doit faire partie du beau cadeau de la vie. Puis je suis là en beau donneur de leçons, moi, à vous distribuer un petit prophète qui spille la parabole un peu partout, tu sais. Et je me dis, non, mais pas cette histoire-là, t'es pas sérieux. Et il y a elle dans le coin qui est en train de revivre son voyage de l'année passée. Et je vous jure que ça m'a fait déposer cette histoire-là, mais avec une sobriété inégalée. Et que c'était rempli de doutes, puis ça a pointé des pieds que je disais que, ben, que dans cette histoire-là, ben, on a choisi que la mort devait faire partie de la vie, quoi. Mais avec beaucoup moins d'assurance, puis en fait beaucoup plus de nuances que jamais. Et c'est quelque chose qui reste maintenant. Maintenant, cette histoire-là, toutes les fois que je la dis, ben maintenant que j'ai pris conscience qu'il y a probablement quelqu'un qui est en train de vivre un deuil ou qui n'a vécu un dans la dernière année. Statistiquement, ce serait dur de faire autrement. Et c'est fou, j'y avais jamais pensé, mais j'y pense maintenant. Alors, ça me fait partager mes histoires avec beaucoup plus de prudence. Et ça vient déformer mes histoires d'une belle manière. Et c'est là où je trouve que le conte vient se polir en rencontrant le public. Chose que je ne ferais pas dans un studio de répétition chez nous, nécessairement. Cette histoire-là, entre autres, c'en est une qui est quand même assez fofolle. Ça ressemble un peu à un trip d'acide, tout ça. Il se passe 1 million d'affaires qui semblent ne pas avoir de lien, mais qui en ont finalement. Et c'est une histoire qui me plaît bien, puis qui est assez déjantée. Mais c'est une histoire qui, fouille-moi pourquoi, elle, plus que d'autres, a vraiment tendance à devenir de plus en plus longue, mais à chaque été. C'était la première avec laquelle je rencontrais ce problème-là. C'est que, bon, moi, j'estime que les gens ont 1 heure et quart d'attention, à peu près. Là, c'est pas mal la limite pour de quoi d'accessible. Et bon, j'ai un 15 minutes de présentation, puis d'assisez-vous, puis v'là des guimauves, assoyez-vous. Et alors, il me reste 1 heure de compte que je peux faire. Mais là, cette histoire-là, après 1 an, 2 ans, elle s'est mise à prendre 1 heure et quart. Mais c'est beau, on a du fun. Puis 1 heure et 20. Mais pour vrai, là, 1 heure et 20, ça fait peut-être 10 minutes que je me dis « c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop long, mon Dieu, ça fait-tu 2 heures que je suis en train de raconter? » Et que je vis tout le temps une espèce de malaise, donc j'accélère le pas. Nécessairement, quand je raconte, eh bien, je rentre moins dans les détails et puis je pèse sur fast-forward en racontant, va pas dans le détail, dis l'action, et puis paf, 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 il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, fin. Ce qui fait que cette histoire-là, finalement, elle devient large du début puis étroite de la fin. Parce que naturellement, au début, je suis là, je pars tout le temps en petite vitesse, moi, puis bonjour, puis là, je me mets à vous raconter le truc, puis je crée un peu un lien avec le public, puis ça me prend une espèce de complicité, l'humour est plus présent, et puis j'ai du temps en masse, fait que je prends le temps, quoi. Donc, il apparaît même souvent des parenthèses qui n'étaient pas là avant, ou des fois, j'en choisis, tu sais, il y a plein de parenthèses possibles, puis ah, celle-là, je l'ouvre pas ce soir, celle-là, je l'ouvre à soir, celle-là, non, celle-là, oui, ah, celle-là, j'ai déjà perdu beaucoup de temps, je la skip. Il se passe un peu ça dans ma tête, tu sais. Mais cette histoire-là, clairement, à un moment donné, j'ai eu à y faire une opération à cœur ouvert. Il y a un hiver où je me suis dit, là, l'été prochain, ça n'a pas d'allure. Elle, il faut que j'y fasse de quoi. Alors, je me suis assis puis j'ai réfléchi en me disant, qu'est-ce que je peux enlever dans cette histoire-là? Clairement, il va falloir que j'y enlève un bras parce qu'il est rendu qu'elle prend 1h30. Puis ça, ça ne marche pas. Je ne peux pas faire un spectacle d'1h45 l'été. Je veux dire, le monde, on débat dans le sandal. Là. On n'est pas au grand théâtre. C'est plein de stéréotypes. Puis ils vont rester là, ces stéréotypes-là. Je ne ferai rien sinon les perpétuer. Je suis porteur de ce qu'il y a de plus sombre en nous. Donc, je me dis, il faut absolument que je l'écourte et je l'ai fait. Et en fait, il faut que je le refasse à chaque été. Cette histoire-là, il faut que je la trime. Il faut que je passe la tondeuse. L'oubli de l'hiver ne suffit pas. Je pense, entre autres, que c'est parce que c'est une histoire où il y a beaucoup de jeux à l'intérieur. Je vous parlais dans un des premiers épisodes que je me promène entre le conteur Patrick animateur ou Patrick narrateur ou Patrick comédien. Ben, dans cette histoire-là, il y a beaucoup de jeux. Et clairement, le jeu, c'est un espace où l'improvisation peut faire que, un peu comme dans le clown, là, si mon personnage, exemple, il y a une scène où est-ce que j'ai des personnages dans cette histoire-là qui transportent du bois de chauffage d'une manière un peu drôle, mais si le public rit, c'est certain que ce soir, ils ne transportent pas le bois pendant 3 pas, mais pendant 12 pas. Et j'ai envie que le public comprenne que je viens d'ajouter ça pour lui. Pas pour qu'il voie que je suis bon improvisateur, mais juste pour qu'il voie que, en fait, c'est une discussion, tout ça. Et puis, on est très proche du clown et dans le sens du rapport au public. Et donc, cette histoire-là, comme il y a beaucoup de jeux, eh bien, il y a plein de moments où est-ce que quand ça lève, eh bien, j'en ajoute. Alors, nécessairement, elle s'est élargie énormément. Et j'ai réalisé, par exemple, après une couple d'années, à un moment donné, après le spectacle, je discute, après un des spectacles, je discute avec une petite famille, puis une petite fille qui est là, et elle dit « Ah oui, moi, ça fait, je sais pas moi, là, 13 ans », puis elle dit « Ouais, ça fait 5 ou 6 ans, moi, depuis que je suis tout petite, je viens entendre tes contes, tu sais. » Je sais plus, j'ai dit « Quelle histoire t'as déjà entendue? » Ah, elle dit « Il y en a une que j'ai entendue 2 fois, puis c'est l'histoire du... » Et elle se met à me raconter l'histoire. Elle me dit pas le titre, parce qu'en fait, mes titres... Il n'y a pas vraiment de titre, on n'en fait pas de cas. Et elle se met à me raconter cette histoire-là, mais en fast-forward, elle passe chaque étape, ça prend 1 minute. Elle me décrit tout, et puis là-dedans, elle décrit des choses qui ne sont plus là. Et je fais « Ah oh, oui, c'est vrai ça! » Il y avait entre autres une scène dans ce conte-là où est-ce qu'il y a un vieux qui est à moitié débile qui tire avec une carabine sur des jeunes dès qu'ils marchent sur son terrain. Tu sais, un vieux débile qui a un trouble territorial là, qu'on appelle... L'Amérique du Nord, quoi. Et pour expliquer que cet homme-là avait un fameux coup de fusil, ben dans le temps, j'expliquais qu'il dégriffait des perdrix à la carabine. Il les tirait par les griffes pour que après quand elle se pose, elle glisse et puis crac, elle se casse le cou. Mais c'était une scène qui durait 20 minutes, qui était une parenthèse pour dire qu'il y avait du visou, finalement, qui, clairement, pouvait se remplacer en 12 secondes pour le bonhomme, il y avait du visou. Point final. Alors... clairement, ce bout-là, je l'ai enlevé. Et puis, à un moment donné, une couple d'années plus tard, paf, il y a une petite fille qui te raconte ça. Puis tu fais, ben de un, bravo pour ta mémoire. Puis de deux, hey, j'avais complètement oublié que ça existait, cette parenthèse-là. T'sais. Donc, ça donne un peu ce rapport-là aux histoires où est-ce que tu portes du matériel que tu as l'impression de connaître, mais en fait, vu qu'il est vivant, vu qu'il est modifié dans le temps, des modifications dont tu étais conscient, d'autres où tu n'étais pas conscient, vous verrez dans les autres contes, il y a des choses que j'ai oubliées sans savoir, je les oubliais et puis on fait avec, quoi. Donc, c'est vraiment là où j'ai l'impression que c'est une matière qui est vivante. On va finir cet épisode-là là-dessus. Ouais, moi, ça me va de finir de même. De toute manière, c'est un épisode court puis il y en a plein d'autres courts qui s'en viennent. Donc, voilà, on se revoit tout de suite. On ne se voit pas, mais on se reparle. En tout cas, moi, je vous reparle. Merci.
Vous écoutiez Il était une fois dans l'Est, une production de La Petite Grève. Le titre original est de Alexandre Gauthier, la musique originale de Guillaume Arsenault, à la co-animation Marianne Boudreau, au montage Thomas Wadam Gagnon et à tout le reste, moi-même, Patrick Dubois. Cette production a été financée par La Petite Grève ainsi que la MRC Avignon et Boralex.